sommes entre Loire et Loing, c'est l'heure du magazine du Gâtinais sur C2L. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter. Alors au sommaire de ce numéro, nous allons nous intéresser à ce qui se passe au cinéma Vox à Château-Renard. C'est une petite salle associative qui propose une programmation bouillonnante. Films, documentaires, débats, rencontres, concerts, théâtres, etc. Tout plein de choses. Et c'est son directeur et programmateur Joël Riflet qui nous en parlera tout à l'heure. Nous évoquerons également la Transgâtinaise, cette rando à pied ou à vélo qui n'avait pas pu avoir lieu durant la crise sanitaire et qui reprend demain matin, tôt, hein, très tôt, au lac de Chalette, avec une grosse nouveauté, vous entendrez ça tout à l'heure. Et enfin, nous visiterons l'expo des Simonets aux Tanneries à Amilly, en compagnie des Simonets. Nous avons donné rendez-vous au couple d'artistes là-bas et nous avons visité l'expo en leur compagnie. Ils ont beaucoup de choses à dire et cette visite, évidemment, est aussi disponible en vidéo sur les réseaux, sur notre page Facebook Entre Loire et Loing. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Un sommaire, encore une fois, bien fourni et j'espère qu'il vous intéressera. On se retrouve tout de suite sur ces deux ailes entre Loire et Loing.
Thank you. C2L Radio.
La radio de l'Est du Loiret.
Nous sommes entre Loire et Loin sur C2L, merci de nous écouter. Alors je vous en parlais en début d'émission, la saison artistique au Centre d'art contemporain Les Tanneries à Amiens a pour thème cette année les registres du jeu. Une thématique qui a été lancée samedi dernier, le 8 octobre, avec l'inauguration de l'expo consacrée aux artistes tout à fait singuliers que sont les Simonets. Ils ont exposé dans le monde entier, hein, des Champs-Élysées à New York, en passant par voilà, le sud de la France, un petit peu partout. Les œuvres sont à la fois ludiques, mathématiques, organiques et même parfois très pratiques. On a eu la chance de rencontrer, d'inviter les Simonets. Alors, l'avantage, c'est qu'ils habitent tout près puisqu'ils sont à Grisel et c'est donc en voisin qu'ils ont répondu à notre invitation et nous ont fait visiter leur exposition aux Tanneries. Avec d'ailleurs les visiteurs qui étaient là et qui ont pu en profiter. C'est un tournage que nous avons fait la semaine dernière et que vous pouvez donc retrouver en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Tout ça au micro de Sandrine Manteau, bien sûr.
Le Centre d'art contemporain des Tanneries accueille une nouvelle exposition. Cette nouvelle exposition est consacrée à Marthe et Jean-Marie Simonet. Mais en fait, on dit les Simonets. Parce que voilà, un couple d'artistes très fusionnels qui habitent depuis 20 ans maintenant dans le coin, à Grisel très exactement. Bonjour Marthe.
Bonjour.
Alors racontez-nous cette nouvelle exposition, quel est l'enjeu pour vous et quel est le plaisir de vous y trouver ?
L'enjeu, oui, c'était de montrer notre travail dans un lieu qui est absolument superbe et qui est vraiment créé pour l'art. Et c'est vrai qu'il y avait très longtemps qu'on n'avait pas montré autant d'œuvres de notre travail qui s'étale quand même maintenant sur plus de 50 ans à peu près, bientôt. Non, j'exagère quand même un peu.
Non, pas du tout.
C'est ça. Voilà. Et donc, notre travail, il se fait à quatre mains depuis cette époque. Et en fait, Jean-Marie avait un travail de peintre et de sculpteur. Moi, j'étais étudiante en architecture avec lui aussi. Et je suis rentrée dans son travail de plein pied, facilement. Et donc, on fait maintenant une œuvre à quatre mains.
Alors, l'exposition s'appelle « Les registres du jeu ». Vous êtes en plein dedans, Jean-Marie. Le jeu et cette frontière brouillée entre œuvre d'art et jeu.
Tout à fait. Alors d'abord, la notion du jeu, au départ, nous, on n'est pas du tout ni des designers, ni des concepteurs de jeux, on est des sculpteurs. Et on joue avec la forme et de multiples façons de produire des formes. Ce qui nous intéresse, c'est d'interroger la forme, c'est d'interroger les possibles. Et pour aboutir à ça, eh bien, on a une démarche qui consiste à créer des formes minimalistes qui vont pouvoir s'assembler indéfiniment à elles-mêmes et à d'autres. Alors si vous jouez avec, plusieurs modules répondant à certains critères, et vous jouez avec. Si je vous les prête en maquette, si vous jouez un certain temps avec, vous allez trouver des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Vous voyez, c'est une création qui se veut ouverte. Et si c'est possible, c'est ce que je voulais rajouter à l'entrée de tout à l'heure de mon épouse, c'est que si on peut travailler ensemble, c'est parce que notre démarche est rationnelle. Elle se veut rationnelle. Et c'est-à-dire que je parle souvent l'imparfait du subjectif. Souvent, l'art repose. On essaye de nous faire croire que c'est quelque chose de mystérieux, presque religieux. Mais non, nous, on dit que tout peut s'analyser, se dire. Et une fois que vous aurez dit, décomposé l'œuvre avec des mots, c'est pas pour ça que vous allez vibrer. Et l'essentiel devant une œuvre, c'est pas les mots que l'on va dire dessus, c'est ce que vous ressentez devant cette œuvre. Et ça, on sait pas comment l'autre ressent. De même en musique, on sait pas comment l'autre ressent. Il dira, c'est beau, j'aime pas. Mais ça ira pas plus loin, même s'il y en a qui sont des experts pour parler de ces choses-là. Alors à deux, comme c'est rationnel, sur la démarche, on peut très bien se confronter, travailler ensemble. On pourrait associer d'autres gens. Ça nous est arrivé une fois de le faire, par exemple, avec la ville de Grenoble, qui voulaient des, ils voulaient réaliser eux-mêmes un peu la sculpture. Ils nous ont fait signe. On leur a envoyé des modules en maquette. Ils en avaient jamais assez, donc l'objet commençait à prendre de la grandeur. Ils l'ont soumis à leur comité de quartier, qui était formidable. C'est la fête, on l'a produit, on l'a installé, tout le monde était heureux, et devant ce succès, il nous commande une deuxième sculpture dans le même esprit, même système modulaire à section circulaire, et on installe ça sur une petite placette qui n'était pas le jardin de ville comme l'implantation précédente, avec une espèce d'espace réservé aux enfants, comme ça. Alors on installe ces sculptures, puis très vite, pétition, encore si c'était en pierre. On a tout un feuillet de gens qui rouspétaient. C'est pas... On n'a pas idée, c'est pas de la sculpture, c'est du plastique, c'est coloré, des couleurs vives, c'était rouge.
Alors, je vous arrête, Jean-Marie. C'est très difficile d'arrêter Jean-Marie. Parce qu'il y a des anecdotes, il y a 50 ans d'anecdotes du travail de ce couple d'artistes. Et surtout, une grande envie de communiquer avec le public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a avec nous des gens qui sont venus voir cette exposition. Et régulièrement, en fait, Marthe et Jean-Marie vont être là, ici, aux tanneries. Vous allez les rencontrer le samedi. Ils ont dit peut-être le dimanche, s'il n'y a rien à la téloche. Et donc, on va passer un petit peu plus loin. Cette première, bon, évidemment, cette première installation, évidemment, c'est l'illustration parfaite des registres du jeu.
Hein, oui, avec quand même, avec cet intérêt que je revendique, si je puis dire, c'est qu'indépendamment de la forme, de l'esthétique, des pions, avec laquelle les gens s'arrangent très bien, ils reconnaissent parfaitement le fou, la tour et tout ça. Mais l'intérêt, c'est qu'à la fin de la partie, quand il faut ranger tous les jeux, eh bien, on les empile, on les enfourche les uns dans les autres, et ça se résume à quatre petits cônes que l'on peut porter. Chacun porte deux cônes. Alors, au lieu de faire traîner les 36 éléments du jeu, eh bien, on peut les ranger.
Voilà, on va parler justement de cette notion de jeu allié au public.
C2L Radio 89.3.
Bon, on me fait une remarque judicieuse. Les registres du jeu, c'est le titre de toute la saison, en fait, ici aux tanneries. Et franchement, l'œuvre des Simonets méritait juste de s'intituler Les Simonets, quand même. Hein. C'est un monument à eux-mêmes, en fait, c'est ça. Et alors, si on est habitué, si vous l'êtes, si vous connaissez d'emblée les œuvres des Simonets au sol, comme moi, sans doute, vous connaissez moins ce qu'on voit là-haut, c'est les cerfs-volants. Racontez-nous, Marthe.
Ceci, c'est un cerf-volant que, bon, là, vous ne voyez pas très bien comment on le manipule, mais ordinairement, il y a deux bâtons de canne à pêche sur les côtés, et il y en a un qui tient d'un côté et l'autre de l'autre. Et le vent, ça a l'air comme ça, très vide, mais toutes ces petites pastilles qui sont dans l'air, elles arrivent à accumuler une force et ce cerf-volant s'élève et nous, nous le maintenons dans l'air en lui donnant une inclinaison pour que le vent le pousse et l'emmène. Et c'est toujours assez merveilleux parce que même toutes les petites fils qui retiennent l'étoile, on ne les voit plus et on voit ces pastilles qui décollent et qui sont dans l'air.
Alors, Jean-Marie, c'est par le biais d'un ami que vous êtes venu à vous intéresser au cerf-volant. Donc, à la base, il y a une anecdote personnelle, bon, très simple.
Et un ami qui faisait une fête dans son village, pas très loin d'ici, il nous dit, pour dimanche, tu viens avec un cerf-volant. Ah, bon, alors on avait sous la main une bâche d'agriculteur toute noire en plastique. On l'a mis des bâtons et puis on l'a fait voler et grand miracle, ça tenait en l'air. C'était complètement fou, c'était pas au point, ça restait en l'air, donc c'était gagnant. Et à partir de ça, on a gardé ce jeu technique et on a continué à créer des cerfs-volants, d'abord à investiguer pour connaître un peu tout ce qui s'était fait et finalement à créer un certain nombre de modèles qui, eux, sont originaux. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le cerf-volant, beaucoup de gens copient des cerfs-volants pour mettre des images plus ou moins contemporaines dessus, mais il y a peu de création parce que c'est un autre esprit, c'est pas un esprit de décoration, le fond du cerf-volant, c'est un esprit technique, c'est organiser quelque chose et qui tienne en l'air. Vous voyez, d'habitude, le cerf-volant, c'est une toile qui, en général, est concave, mais c'est sur la partie extérieure convexe que le vent souffle et le vent s'échappe de chaque côté. Là, c'est exactement le contraire. Le vent, ça va créer un creux dans le cerf-volant. Alors là, comme il est très grand, pour qu'il n'y ait pas trop de prise au vent, il est très évidé. Mais malgré ça, toutes ces pastilles de toile représentent une certaine surface. Donc, ça va quand même attraper le vent et tenir en l'air.
Alors, j'essaie de résumer, en fait. les Simonais proposent, ils travaillent à la fois dans l'air, à la fois bien ancrés au sol avec leurs œuvres, voilà, au sol, c'est le moment de le dire. Et puis, il y a toujours une dimension très poétique et à la fois très mathématique. Là, quand on regarde ces formes-là, on se dit que c'est aléatoire, que c'est organique, peut-être, ça nous fait penser peut-être à un paysage de fond marin. Et en fait, on se disait tout à l'heure, eh bien, par exemple, que dans toute organisation type cellulaire, coraux, etc., qui vous ont toujours intéressé, je pense qu'à l'origine de vos inspirations, il y a Gaudi, par exemple. Oui, c'est
fait,
cela.
Tout à fait. Hein, tout à fait. Et c'est vrai, mais alors, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est architectes tous les deux. Nous avons fait architecture aux Beaux-Arts et non pas sculpture. Et en architecture, eh bien, il fallait faire des parallépipèdes. Et si on faisait autre chose, de temps en temps, moi, au début, j'avais envie de faire des courbes, j'étais dans un esprit organique, c'est-à-dire en rapport au vivant. Et ça ne pouvait pas passer, ça ne passait pas. Et depuis le début jusqu'au prix de Rome, c'était ce qu'on nous demandait. Bon, alors, pendant un certain nombre d'années, on s'y est soumis, et dès qu'on a eu le diplôme, on a fait autre chose, parce qu'on savait qu'il y avait là une porte qui serait difficile à ouvrir, alors qu'individuellement, c'était plus facile que d'aller chercher des gens qui accepteraient une architecture qui serait différente, quoi.
Et donc, on est d'accord, toutes ces formes qui vous intéressaient, en fait, eh bien, sont tout à fait mathématiques.
Non, pas tout ou pas.
Non, pas toujours. Il y en a certaines géométriques. Là, vous verrez sous cette verrière, cette première série est très organique, et l'autre série, tout à côté, ce sont uniquement justement des sphères tangentes qui s'imbriquent et qui. Bon, et là, il y a toute une recherche de finalement entre la forme creuse qui tout d'un coup devient forme pleine, etc. Donc ça, c'est plus une réflexion assez poussée sur la forme à base de sphères. Donc, quelquefois, on prend justement un élément et on travaille dessus jusqu'à ce qu'on trouve des choses qui soient, à ce moment-là, d'une forme mathématique passée à une forme organique.
On va les voir avec nos visiteurs.
C'est...
Alors, on n'a pas peut-être pas l'habitude de voir ça chez vous, justement, le côté rugueux.
Alors, le sculpteur, pour faire une forme, qu'est-ce qu'il a ? Il a la terre et le plâtre. Mais la terre et le plâtre, quand vous le travaillez, il faut le garder humide. Alors, ce qui est une grosse contrainte. Alors que là, c'est un mélange de résine et d'herbe. Comme il faut de temps en temps que je tonde mon jardin, l'herbe est hachée, mélangée avec de la résine, et ça fait un mastic très malléable, très facile. Vous pouvez le laisser pendant 2 heures, vous repartez, vous revenez dans 6 mois, vous pouvez continuer votre forme. Et en plus, ça ne me coûte rien du tout parce qu'il faut que je coupe l'herbe.
Et ça fait longtemps que vous faites ça ?
Oh, ça fait maintenant, ça doit bien faire quoi,
une dizaine d'années.
Un peu plus de 10 ans, ouais, oui.
Mais c'est par période. Hein, c'est pas tout, on ne travaille pas toujours longtemps dans une technique. On peut passer d'une technique à une autre. Et là, ça a été toute une période où on a travaillé cette herbe.
Alors,
oui. Oui, par exemple, ce que vous voyez là, on a découpé des formes dans un relief qui était plus grand. On a sur cette forme qui était cirée, on en a tiré une autre. Vous voyez, elles sont puzzles, beaucoup d'entre elles, celles qui sont l'une en face de l'autre, elles sont puzzles. Et après, ces deux formes n'étant pas encore décollées, démoulées, on a modelé autour, avec de l'herbe et de la résine, on a modelé ces formes. Et après, on les décolle, parce que c'est ciré, donc ça va se décoller assez facilement. Vous voyez, ce sont finalement... Traditionnellement, on tourne autour de la sculpture. Nous, on aime bien aller voir ce qu'il y a dedans.
Alors, on aimait bien cette idée de découverte, comme ça.
Mais alors, dites-moi, Marthe, ça me brûle les lèvres et l'esprit. Vous êtes en train d'attraper vos éléments. est-ce que la jeune fille, là, elle a le droit de les attraper ou pas ?
Tout est possible, mais on préfère que ça ne se fasse pas. Et du reste, les tanneries préfèrent que ça ne se fasse pas, et on le comprend, parce que à partir du moment où les gens manipulent des objets, eh ben, ça marche très bien pour 10, puis le 11e, la pièce tombe par terre et elle est accidentée.
Ça a un poids pas très lourd, mais enfin, ça peut échapper. Et on sait... C'est un matériau qui est très friable. La surface peut s'abîmer un peu. Bon, c'est pas grave.
Bon, allez, alors on va aller un petit peu plus loin. Vous savez bien pourquoi je vous pose cette question. Parce qu'on a l'habitude quand même de jouer avec vos sculptures monumentales, de jouer sur vos sculptures. Et vous l'avez supporté et vous l'avez assimilé au fil du temps. Et ça a fait votre identité quand même.
On fait surtout de la sculpture monumentale, et la forme ronde et la couleur, ça attirait les enfants. On a retrouvé des enfants qui dégoulinaient dessus. La télévision, quand il y avait des vernissages, avait fait des petits films dessus. On voyait les enfants qui montaient, qui descendaient. Bon, on avait un public. Et je dois le reconnaître aujourd'hui, ce sont les yeux des enfants qui ont ouvert ceux des adultes. Alors on s'est dit, on a les enfants, ben, gardons-les. Et c'est comme ça qu'au départ, pour un sculpteur, c'est toujours difficile. Eh bien, on a fait des formes qui étaient accessibles délibérément pour les enfants, à l'intérieur desquelles, éventuellement, ils pouvaient pénétrer, jouer dans des petits labyrinthes. Ça a été le prétexte à toute une création qu'on a soumise aux écoles maternelles, par exemple de la ville de Paris, qui trouvaient ça très intéressant, qu'il y ait un renouvellement des espaces de jeu en cours d'école, parce qu'ils ne connaissaient à l'époque que le pneu et la trottinette. Alors on a apporté autre chose. Tout ça parce qu'au départ, les fabricants de jeux ne voyaient dans le jeu que la fonctionnalité du jeu. Il fallait monter, glisser, se cacher. Mais non, on peut très bien faire un jeu qui soit un décor poétique dans lequel les enfants vont évoluer et se trouver très bien. Ça peut être plus poétique que fonctionnel. C'était une fausse idée de limiter ça au fonctionnel. L'enfant, de toute façon, il se dépense, qu'il ait du jeu ou pas.
Alors, on continue un petit peu plus loin. Alors là, Marthe, dites-moi, est-ce que, donc là, c'est la fameuse matière aussi que vous maîtrisez maintenant depuis 50 ans. Vous avez choisi le polyester, c'est ça ?
Tout à fait. Là, vous voyez des ensembles, c'est des sphères en polyester. Donc la première chose qu'on fait, on a des moules de demi-sphères et on crée des sphères. Et puis en ressoudant, et après on les assemble, et puis après on creuse de façon à retrouver l'intériorité de la sphère. Et à ce moment-là, on fait passer la forme d'une sphère à une autre, ou alors on les fait passer de sphère en sphère, etc. Donc c'est tout un jeu de sphères qui elles ne s'interprètent pas, elles sont souvent toujours tangentes. Et le volume passe, on voit surtout sur celle-là qui est au bout, elle passe du creux à la bosse, d'un autre creux. Donc c'est ce passage du vide au plein qui nous a intéressés.
C'est votre jeu, c'est ça ?
Alors pour le passage d'une sphère concave à une sphère convexe, bon, il y a des enduits, il y a des mastiques, parce que géométriquement, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que ces sphères prennent une certaine épaisseur à certains endroits. Comme je le disais, nous sommes un peu des obsédés de la sphère, parce que pendant ces 10 années d'architecture, on ne faisait que des cubes. Et on a fait comme diplôme d'architecture un procédé, on a étudié et mis à jour un procédé de construction de sphères. D'habitude, on voit des sphères, il y a un grand architecte qui s'appelle Buckminster Fuller, bon, qui avait fait pour un salon à New York une immense sphère, mais obtenue à partir de barres. Il y a tout un jeu de construction qui consiste à assembler des barres, ce qui est extrêmement intéressant sur le plan technique, mais la barre, ce n'est pas la sphère. Et nous, sur le plan purement formel, on voulait essayer de trouver quelque chose qui n'échappe pas à la sphère pour faire des sphères. Vous êtes toujours sur la même sphère. Et ça, c'est visuellement, c'est quelque chose qui est dans la logique de la sphère et qui nous satisfait, quoi. Et de temps en temps, ça, on voit beaucoup maintenant, à l'heure actuelle, sur Internet, vous verrez des tas de sphères. Bon, c'est dans l'air du temps aussi, mais ça, nous, on a fait ça c'était en 70. Vous voyez des gens qui font des maquettes de sphères à partir d'éléments coniques, comme ça.
Je vais arrêter Jean-Marie sur les polyèdres et tout ça, et on va continuer un peu plus loin.
un cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens, c'est idiot.
Oui.
Marie roule 7 heures pour rejoindre Paul, à 600 km de chez elle. De quelle quantité d'énergie a-t-elle besoin ?
Bah, facile. Bon, écrit. Si Marie tient tant à revoir Paul, elle n'a qu'à rouler en hybride Toyota pour consommer moins d'énergie. Voilà.
Faites des économies d'énergie en roulant jusqu'à 55% de votre temps de trajet en électrique. Passez à l'hybride Toyota, portes ouvertes ce week-end. Toyota. Économie carburant par rapport à véhicule thermique équivalent, temps de trajet Drive Eco août 2022. Pensez à covoiturer ?
Journée portes ouvertes ce week-end chez votre concessionnaire Toyota STA 45 à Villemandeur.
C2L Radio, C2L 89.3.
Nous sommes toujours entre Loire et Loing sur C2L. Merci de nous écouter. Et je vous rappelle que nous sommes en train de visiter l'exposition consacrée aux Simonets en leur compagnie avec au micro de Sandrine Manteau. Tout ça, c'est une exposition aux tanneries qui se déroule jusqu'au 18 décembre dans le cadre d'une thématique de la saison qui s'intitule « Les registres du jeu ». Donc, on continue la visite.
Les Simonets, est-ce que j'ai le droit de toucher ? Est-ce qu'on a le droit de toucher ?
Non, surtout pas. Il faut le faire. Non, pas ici, parce qu'il y a un problème d'assurance.
Mais normalement, on touche. On touche vos œuvres. On les caresse.
Qui décrète la normalité ? Les enfants, ils ne nous ont pas demandé l'autorisation. Ils étaient dessus. Et si on existe aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux. Grâce à leur bravement. Ils ont bravé l'interdit. Ils n'ont même pas le souci de l'interdit.
Et donc, vous avez brouillé la frontière entre l'œuvre sacralisée Et puis...
Il y a des objets qui sont plus fonctionnels, qui sont faits. Si c'est pour les enfants, bon, on ne va pas monter trop pour qu'ils ne se tuent pas en montant dessus. Si c'est un élément un peu plus précieux, ben oui, il ne faudra pas y toucher. Un objet comme ça, ce n'est pas fait pour monter dessus. Ces objets ici non plus. Par contre, on a fait des arborescences comme ça, qui sont conçues exprès. C'est à la fois une sculpture, un décor, une expression organique, et ça peut servir de jeu.
Au parc des Terres Blanches, il y en a une qui est installée depuis, je pense, au moins une dizaine d'années. Et je la vois vieillir, et ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'au début, quand elle vieillit, c'est les quelques coups et les choses comme ça. Et ça fait toujours
ça
fait mal. Mais maintenant, je vois que tout le vieillissement devient un peu plus uniforme. Et on sent que, oui, c'est simplement un objet qui vit. Et ça, c'est intéressant. C'est drôle comme à un moment, ça devient comme la vieille cuillère que vous avez dans votre cuisine. Quand elle est toute neuve, elle est belle. Après, elle commence à se salir. Et puis au bout d'un moment, quand elle est vieillie, elle prend du poids.
Marthe, c'est comme nous.
Alors ce travail qui est en cours, c'est une réflexion sur un puzzle dans l'espace. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé à l'idée de puzzle, d'abord. L'idée de puzzle, quand vous faites une première forme, vous prenez une empreinte, soit en plâtre, soit en plastique, si c'est en plastique, vous allez avoir une coque. Vous regardez, vous avez le positif d'un côté, et de l'autre côté, vous avez le négatif. C'est-à-dire, vous n'avez conçu qu'un positif, et vous vous retrouvez avec deux formes, positif et négatif. Et quand vous voyez le négatif, l'artiste est étonné que ça lui sorte des mains parce qu'il n'y a pas pensé à ça. Et la plupart du temps, en tout cas c'est notre cas, on n'est pas du tout, on refuse pas du tout cet apport nouveau. Et vous verrez, il y a des exemples comme ça à propos d'un grand cercle très organique. On voit le positif en plastique et le négatif en moule. Ces deux formes sont intéressantes et on les garde. Vous voyez, on travaille une forme, on en a deux. Et le modulaire, vous travaillez des modules et vous avez alors une pléthore de possibilités. Vous voyez, il y a un côté boulimique qui fait partie de la vie. Ce qui est intéressant pour nous, sculpteurs, c'est de créer des formes que moi, je ne connais pas. Alors, j'interroge, c'est le domaine des possibles. C'est ça, le sculpteur, rendre possible d'autres formes et être étonné lui-même de ce qu'il découvre par son activité, par son action manuelle et humaine.
Oui, vous parlez d'action manuelle et humaine. Vous disiez que vous avez une activité extrêmement manuelle, presque artisanale.
Oui, tout à fait. Oui, on travaille de nos mains. Un peu de la tête quand même, mais, mais on travaille de nos mains. Tous les objets sont sortis de nos ateliers.
Voilà, et c'est une dimension, cette dimension manuelle qui vous intéresse beaucoup, qui vous plaît beaucoup.
Elle me plaît dans la mesure où je pense que le fait de travailler ces formes nous amène à plein de réflexions qui permettent d'aller à la forme suivante.
C'est le temps de maturation d'une idée.
Oui, le temps de maturation, le temps aussi de comprendre une forme, de jouer avec,
De la découvrir, de découvrir ses possibilités. Souvent, ça nous est arrivé, des gens, des sculpteurs avaient fait une forme en plâtre et puis ils vont voir, on a été sollicité comme ça plusieurs fois, ils veulent qu'on peut la faire en plastique. Mais il y en a des tas qui ne sont pas du tout bien conçus pour être faites en plastique. Nous, notre démarche, elle est très liée à la technologie du moulage, du répétitif du moulage, quoi.
Alors justement, on parlait de ce fameux concept de polymorphe qui vous colle à la peau. C'est quoi le polymorphe ou les polymorphes ?
Alors c'est un mot assez barbare, c'est vrai, c'est très intello ce mot polymorphe, qui veut dire finalement un objet qui peut avoir plusieurs formes. Et en fait, on nous jouait avec des modules Et on faisait, par exemple, un petit serpent avec tous ces modules. Et c'est vrai, le serpent, il bougeait, etc., parce qu'il y avait des petites fiches à l'intérieur. Et il pouvait tout à fait avoir une forme très ramassée où il s'étalait comme un serpent. Et donc, ce mot nous a interrogés sur, finalement, la multiplication de... C'était une idée qui était très à l'époque, la multiplication. La seule chose qui nous ennuyait, c'était toujours la multiplication de la même forme. Et tandis que nous, ce qu'on aimait, c'est la multiplication quelquefois de la même forme, mais qui pouvait s'assembler à elle-même ou à d'autres. Et c'est ça qui commençait à devenir intéressant.
Par exemple, vous faites un pneu, vous le divisez en quatre, vous avez quatre modules, ou en huit, vous avez huit modules qui forment un angle des sections circulaires avec lesquelles vous allez pouvoir jouer. Des modules comme ça, vous pouvez les tourner de 180 degrés. Donc ça donne plein de possibilités, vous pouvez configurer toutes les formes dans l'espace possible. C'est très riche et c'est ça qui nous intéresse. Et même de partager, on vous prête les modules, vous faites la forme que vous voulez avec des modules à 2 directions, 3 directions, jusqu'à 12 directions. Tout est possible dans l'espace, quoi, à toutes les échelles.
Voilà, donc en fait, avec les Simonets, tout est possible, c'est ce que vous aurez compris.
Souvent, on parle d'objets uniques. L'objet unique en art, c'est tabou, il ne fallait pas y toucher. Ben nous, on prouve qu'au contraire, multiplier ça, c'est quelque chose qui nous fascine. La foule n'est pas à rejeter. C'est pour ça que vous êtes là. La foule n'est pas à rejeter. Le quantitatif dans l'univers est une qualité. C'est pas un handicap, c'est pas une pauvreté. Et sur le plan formel, pas davantage. Si je vous mets qu'un seul élément... Ça n'aura pas le même effet là, que si je vous en mets une douzaine. Vous voyez, là, c'est un début et on veut quand même développer ça de manière à ce que ça soit encore plus convaincant et monter à 2-3 mètres, quoi.
Bon, on va arrêter, Jean-Marie, 2 minutes. Le temps de vous dire au revoir entre Loire et Loin, leur dire merci. Merci, Marthe. Merci, Jean-Marie.
Merci de votre intérêt et de votre aide pour communiquer, car c'est l'essentiel, c'est bien cette communication de la création avec le public.
Voilà, l'essentiel, c'est la communication entre des artistes et le public qui vient ici aux tanneries pour cette exposition. Les Simonets, vous pouvez également les retrouver bientôt, à la fin octobre, je crois, et tous les ans d'ailleurs, à l'ouverture de votre atelier à Grisel, c'est ça ?
Et sur notre site, lessimonets.fr. Et là, vous verrez tout ce que vous ne voyez pas ici.
Merci.
Discuss what the one of your children knows. hidden from the communists. There's a God that we wanna praise for spiking the drinks of the human race. No matter what I turn to, I turn to, it's failing me. No matter what I turn to, I turn to, it's failing me. Oh, oh, oh,
www.c2l-radio.fr.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Merci de nous écouter et merci de nous regarder en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin, où vous pouvez retrouver tous nos reportages. Hein. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Direction Châteaurnard, à la rencontre de Joël Riflet, directeur programmateur du Vox, un cinéma associatif où il se passe plein de choses depuis maintenant plus de 20 ans. Joël nous présente la programmation des prochaines semaines.
Amis d'Entre Loire et Loin, il paraît que les salles de cinéma ont du plomb dans l'aile. Que doit-on faire pour vous faire revenir au cinéma, vous faire revenir dans les salles obscures ? Eh bien, peut-être, évidemment, je vous donnerai bien la bonne idée de venir ici, au Vox, le cinéma Vox. Il se trouve à Château-Renard. Ça fait 25 ans, en fait, qu'il fait parler de lui et qu'il se remue les méninges pour vous proposer du cinéma autrement. Et celui qui fait la programmation, que je qualifierais d'artiste en matière de programmation, c'est Joël Riflet. Salut Joël.
Bonjour. Artiste, je ne sais pas. C'est avant tout les œuvres qu'on passe sur l'écran et les gens qu'on accueille qui sont des artistes. Voilà, moi je suis une petite main qui essaye de fabriquer la mayonnaise pour que ça fasse un beau programme et que ça donne envie aux spectateurs.
Alors voilà, je crois justement qu'il a dit le bon mot, Joël. C'est une histoire de mayonnaise. Ici, au Vox, c'était avant-hier soir. Eh bien, la salle était pleine. Elle était pleine pour un film sur Clémenceau. Et puis, il y avait un intervenant qui a fait venir beaucoup de monde. Raconte.
Sur Paul, sur Clémenceau et surtout Deschanel. Parce D'accord. que voilà, c'est lui la vedette positive du film. Clémenceau en prend un peu plein la figure dans ce film. D'ailleurs, les amis, l'association des amis de Clémenceau, Clémenceau n'a pas forcément apprécié ce film. Et notre invité, c'était Jean-Louis Rizzo, mon ancien prof d'histoire au lycée en forêt, comme plein d'autres gens. Et il a marqué plein d'élèves à l'époque. C'est un homme absolument passionnant qui connaît par cœur toute cette période-là. D'ailleurs, il a écrit un bouquin sur Alexandre Millerand, qui est le président qui a succédé à Deschanel en 1920, après 6 mois de présidence de Deschanel. Donc Alexandre Millerand, qu'on voit dans le film, est interprété par Christian Heck, et il était absolument passionnant, Rizzo, donc c'était ouais. super. Ouais.
Voilà, ça c'est pour vous donner une idée, la salle était pleine. Ouais. Et puis, à côté de ça, eh bien, le Vox proposait aussi une soirée dans le cadre d'Octobre Rose. C'était à Bazoches-sur-le-Bette, puisque nous faisons du cinéma itinérant, ça s'appelle du cinéma dans mon village. Et donc, c'était avec un documentaire magnifique, on vous le conseille, d'Alexandre Messina, qui par hasard est un réalisateur qui habite Courtenay. C'est un documentaire qui s'appelle Elle danse, voilà, qui nous parle du milieu des hôpitaux, du cancer et d'une jeune femme qui danse pour essayer de rehausser un petit peu le moral de ses malades. Voilà. Et le documentaire ici, au Vox, ça marche bien. Voilà, le français aime le documentaire, surtout quand il peut rencontrer des réalisateurs ou encore d'ailleurs des personnes du monde civil.
Oui, et puis l'intérêt aussi, c'est de pouvoir prendre du temps après la séance pour pouvoir discuter, et c'est ce qu'on propose effectivement au Vox régulièrement. Donc cette séance avec Alexandre Messina pour Elle danse, ça sera le 28 octobre, et entre-temps, on aura aussi une séance au pôle culturel de Courtenay le 21 octobre, et c'est en partenariat avec la 3CBO ces séances-là. Et effectivement, on reçoit régulièrement pour des documentaires des gens de la société civile, donc des associations, des artisans locaux, selon les thématiques en fait qui vont proposer ces idées-là.
Exemple, on vous donne un exemple tout de suite. Il y aura postpartum, c'est vendredi prochain, le 14. Donc c'est la période sensible qui se situe après l'accouchement. Et là, on aura la réalisatrice et puis une sage-femme et une infirmière. Et là, souvent, à chaque fois qu'il y a eu ce type de séance, eh bien, vous étiez nombreux dans la salle.
Et en fait, pour cette séance-là, c'est tout bêtement les gens qui nous ont proposé cette soirée. Donc, cette sage-femme a écrit pour dire ce que ça vous dit de recevoir cette réalisatrice pour ce documentaire. Et puis, donc, on a calé ça. On n'a pas eu à aller imaginer. Voilà, on nous le propose et évidemment qu'on les accueille pour cette séance.
Voilà, alors le cinéma, en fait, c'est des rencontres humaines aussi. Voilà, je crois que c'est ça qui fonctionne au Vox, c'est ça que vous aimez et c'est ça qu'on aime. Et par exemple aussi, Joël, il a programmé à la fin du mois, cette fois-ci même pas, au début du mois prochain, en novembre, le 2 novembre et surtout le vendredi 4 novembre, eh bien il va y avoir une rencontre, une soirée béninoise consacrée au Bénin avec, alors là on rajoute, il y a des rencontres puis il y a de la bouffe, ça marche bien souvent, avec dégustation de spécialités béninoises, initiation aux danses, présentation d'un film de conte, défilé d'une créatrice béninoise, tout ça autour d'un film américain bizarrement qui s'appelle The Woman King, raconte.
Exactement. En fait, on a un ami dessinateur qui s'appelle Svet, qui habite dans le coin et dont la femme est béninoise. Et ça fait plusieurs années qu'on cherche à faire une soirée autour du Bénin avec eux. Et c'est très dur de trouver des films qui sortent au cinéma qui parlent du Bénin. Et là, il se trouve que c'est un film américain qui un film à grand spectacle, un petit peu dans le genre de Black Panther, qui raconte une histoire d'Amazon, au Dahomey, donc c'était le Bénin actuel. Donc ce film sort et donc je leur ai proposé et ils proposent ces petites choses-là et évidemment les spécialités. Donc ça, c'est eux qui ont proposé ça. J'ai dit oui, c'est parfait comme programme. On vous accueille et je pense que les spectateurs vont être ravis. Ça va être très très sympa.
Et il y a quelques semaines, justement, il y a eu le même type de soirée et là c'était autour du cinéma iranien. Nous ici au Vox, on aime bien faire la bouffe et là c'était les copines qui se sont aventurées dans un repas vaguement iranien quand même, mais c'était super bon et c'était super réussi et il y avait plein de monde autour de deux films iraniens.
Oui, il y a eu plus de monde que pour le film de Franck Dubosc qui passait la même semaine et qu'un blockbuster américain. Et la salle était pleine aux deux tiers, donc c'était très sympa. Et on avait fait également une soirée espagnole début juillet où il y avait pas mal de monde. Et je ne sais pas si c'est les films qui faisaient envie, je pense qu'il y avait ça aussi, mais il y avait aussi la bouffe au milieu. Et j'ai déjà une idée pour le mois de novembre, une autre soirée. Alors, ça ne sera pas autour d'un pays, mais ça sera autour d'une même thématique. Voilà, vous aurez la surprise et je vais appeler nos cuisinières pour qu'elles préparent un petit quelque chose. Et après, effectivement, une soirée thématique autour d'un pays avec les spécialités culinaires, on va continuer. Ça sera peut-être le Japon la prochaine fois, l'Amérique du Sud. On verra bien, selon l'actualité cinématographique, évidemment.
Et puis, on vous rappelle évidemment que le cinéma Vox, c'est aussi un lieu de concert, un lieu théâtre. C'est un ciné café-concert depuis, depuis ses origines. Et donc, on aura du théâtre.
Gavroche dans la lune, donc avec trois filles, deux qui chantent et la troisième qui est conteuse. Et elles vont faire une très très belle soirée également.
Parmi ces trois filles, il y a Fanny Marie. Fanny Marie, vous la voyez régulièrement au Masque d'Or. C'est l'égérie du Masque d'Or. C'est la muse. Et que vous dire d'autre que cette programmation théâtrale, la plupart du temps, elle est mise en place par Mimi Lignot, Michel Lignot, qui s'occupe des critiques théâtrales sur le Montargois, particulièrement au Tivoli. Donc c'est...
Elle a des bons contacts partout. Elle a un très grand réseau. Donc...
Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre encore ?
Ça va être le premier opéra de la saison, Madame Butterfly. D'ailleurs, on aura aussi la saison de la Comédie française qui va débuter très bientôt avec La Puce à l'oreille, très prochainement, de Feydeau. Là, je lis à l'envers, spectacle, c'est Gavroche dans la lune, donc le spectacle avec, entre autres, Fanny Marie. Un atelier 1, 2, 3 ciné, donc le doublage au cinéma pour les enfants autour d'un super film d'animation qui s'appelle Le Tigre qui s'invita pour le thé, et puis l'affiche pour les soirées Elle Danse en partenariat avec la 3CBO.
Voilà. Une dernière chose encore, il est magnifique ce programme. Vous pouvez le récupérer sur chez plein de commerçants. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et puis par mail, on vous envoie tout ça. Elles sont très bien faites, les infos régulières, les programmes.
Grâce à une certaine Chloé. Qui est notre infographiste et qui nous fait des magnifiques affiches et programmes depuis quelques années déjà. Oui.
Et on finira le programme par L'Ombre de Goya. C'est un documentaire sur le fameux Goya. Et donc là, tu as invité Hélène Fleischer.
Absolument. Hélène Fleischer est déjà venue au Vox il y a 2-3 ans pour un film espagnol qui s'appelle Lettre à Franco, qui était un film passionnant. Et elle est enseignante en espagnol au lycée en forêt, puis également en histoire des arts. Et là, ça coche toutes les cases. Goya, c'est l'Espagne et c'est l'art. Et c'est son peintre préféré. Et donc, c'est un documentaire dans lequel on suit Jean-Claude Carrière qui retourne en Espagne sur les traces de l'œuvre de Goya, et donc elle va venir intervenir sur ce film-là. C'est le 11 novembre, c'est facile de se souvenir de cette date-là.
Voilà, alors vous réfléchissez à tout ça. Vous pouvez aussi vous dire que si vous avez, vous, des idées, des envies de programmation, eh ben nous, au Vox, on est là, en fait, pour écouter. On met ça dans un coin. Des fois, ça vient dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais ça ressort tout de suite. Vous pouvez venir à la table aussi pour discuter avec nous. Les programmations cinéma, ici, elles sont faites avec tout spectateur du Vox, qu'il soit adhérent ou pas, en compagnie de Joël et les deux autres salariés du Vox. C'est l'ébullition permanente ici, grâce à Jo, qu'on appelle Jo Limonade sur les réseaux. Mais on n'a qu'un problème ici au Vox, on est désolé, on ne peut pas vous accueillir toute une semaine et vous faire dormir sur place. Parce que des fois, je me dis qu'il faudrait bien ça pour pouvoir profiter entièrement du programme élucubré par notre ami.
Que dire de plus ? Merci beaucoup pour toutes ces remarques. Et je garde l'idée que je suis un fabricant de mayonnaise. Voilà, avec les idées des uns des autres, les propositions. Et puis j'essaye de faire rentrer tout dans une seule salle. Et parfois, on regrette de ne pas avoir une deuxième salle. On avait inauguré il y a une quinzaine d'années, c'était un 1er avril, je crois, la deuxième salle, la salle Jean-Claude Van Damme. Mais c'était une blague. Malheureusement, elle n'existe pas.
Venez faire des blagues avec nous. Salut. Ouais.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper and dead. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I own my soul to the company store. The sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal in the straw. I said, well, I bless myself. You load 16 tons. And what what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Was drizzling gray, fighting in trouble. I'm a maiden name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. And no, I don't wanna make me walk the line. You load 16 tons, and what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? Another day older, and deeper in debt. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin sur ces deux ailes. Nous n'allons pas tarder à nous quitter, mais je vous rappelle, toute la programmation du Vox à Châteaurnard est à retrouver sur leur page Facebook, notamment, et puis sur leur site internet, hein, levox.fr. Je vous rappelle également que les Simonets, que nous avons entendus en début d'émission, exposent aux Tanneries à Amilly jusqu'au 18 décembre. Et avant de se quitter, je vous rappelle que demain matin, à l'aube, au lac de Chalette, la Transgâtinaise, donc rando à pied, en vélo, reprend avec plein de lots à gagner et une nouveauté cette année. On en parle au micro de Patrice Avzar.
Enfin, après 2 ans d'absence, en raison du Covid, la Transgâtinaise est de retour, ça fait du bien.
Ouais, effectivement, 2 ans d'absence, il faut se roder et repartir sur des habitudes qu'on avait, puisque c'est quand même la 29e édition. Donc là, on se prépare et on attend tout le monde le 16 octobre.
Voilà, on retrouve comme d'habitude du vélo, enfin du VTT et de la marche.
Alors, on trouve du VTT, bien sûr, de la marche aussi. Alors, pour chacun, il y aura plusieurs circuits, hein, comme d'habitude. Et puis, une petite nouveauté, il y aura une randonnée gravel. Hein, c'est une nouvelle discipline du vélo qui est entre le VTT et puis la route.
D'accord, donc c'était une demande des participants ou est-ce que c'est le guidon qui s'est dit « Allez, tiens, on va tenter l'expérience ?»
Non, c'est une discipline qui commence à s'étendre. Hein. Donc le principe, c'est que les participants ont sur leur VO un GPS et on leur donne tout le circuit, on leur transfère le circuit par GPS et ils ont des circuits. Alors donc ils vont aller en forêt, ils vont aller au bord du canal, ils vont aller sur la route, ils vont découvrir, ils vont aller en ville. Hein, on va les faire passer dans Chalette, dans Montargis. Donc et ils reviennent. Alors c'est pas une compétition. Bien sûr, hein, c'est une randonnée. Hein.
Et c'est sur combien de kilomètres cette gravelle ?
Alors la gravelle, il y a deux circuits, il y en a un de 50 et un deuxième de 100.
Donc là, ça roule beaucoup plus que ce qu'on peut dire avec le VTT traditionnel.
Oui, ça roule beaucoup plus vite parce que c'est des vélos qui sont un peu plus adaptés que pour rouler plus vite qu'un VTT. Mais malgré tout, c'est une randonnée. Hein, ils doivent respecter le code de la route. Et puis, la vitesse, oui, ça va rouler quand même un petit peu plus vite avec le gravel. Mais ils ont beaucoup plus de kilomètres.
Donc, on peut s'inscrire toujours et encore en ce moment et le jour du départ, comme d'habitude ?
Alors oui, bien sûr. Hein, donc là, on a mis sur le site du Guidon Chalettois les bulletins d'inscription. Hein, donc on peut s'inscrire avant. On peut aller s'inscrire aussi au magasin de cycle de Chalette, Cycle et Sport 45, qui a à disposition des bulletins d'engagement et vous faites votre règlement. Et puis, on prendra sur place, bien sûr.
Nous Nous étions entre Loire et Loing sur ces deux ailes. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous samedi prochain à 10h à la radio. Et puis bah, tout le reste de la semaine en vidéo, sur les réseaux, sur notre page Facebook Entre Loire et Loing. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Merci à toute l'équipe, Sandrine, Patrice, Anita, JB. C'était Pascal Weber au micro et à la Réal. Bonnes semaines à toutes et à tous. Sur ces deux ailes, bien sûr.
Zelle Radio. Before, but I ain't gonna take any.